plus le mener. Il y a une brochure qui s'appelle L'imposture écologique et qui est disponible sur InfoKiosque et qui explique en quoi toutes les expériences monétaires alternatives, les expériences alternatives en général, mais monétaires en particulier avec le troc, avec des trucs comme ça, comment en réalité tu revenais au galop au système de capitaliste avec tout ce qui est les enjeux et même la capitalisation, tu vois, et c'est tout à fait édifiant au-delà de tous les discours youplaboum que tu peux avoir sur le sujet des expériences alternatives. Mais justement, l'expérience alternative des sels, ce qui marchait mal dans le cas du sel où c'était le briquet de broc, enfin, où on va dire qu'on faisait pas d'équivalence, ça marchait quand même nettement mieux. Mais, et puis avec pas les mêmes problèmes, quoi. Mais le problème, c'est que on a beaucoup de mal à se mettre en contact avec les autres, quoi. Surtout en ville comme ça, peut-être, je sais pas ce qu'il en est pour les selles à la campagne. Il y avait d'autres problèmes hein, qui venaient plutôt de l'extérieur d'ailleurs. Mais disons que il y avait un petit peu ce problème-là. Et par ailleurs, enfin, les gens se méfiaient même de rentrer en contact avec quelqu'un qu'ils connaissent pas. Hein. C'est vraiment, il y avait un souci comme ça. Donc c'était avec des gens qu'on connaissait déjà. On va dire que c'était juste étendre les relations de bon voisinage, peut-être que ça existe sans le formaliser du tout. Mais par ailleurs, ceux qui faisaient une monnaie fictive, alors là, c'était un cauchemar. Parce que je me rappelle d'avoir même tenu le stand à une fête comme ça des associations. Et dans les deux cas, hein, d'ailleurs, ça se partageait entre les gens qui avaient peur qu'on les exploite et ceux qui avaient peur d'être d'exploiter, enfin d'abuser, etc. Mais la plupart du temps, c'était plutôt peur d'être exploité. Mais le truc qui m'avait marqué, c'est que sur les équivalences, il y avait un mec qui donnait un étudiant qui donnait des cours de maths et qui disait, je suis désolé, un cours de maths, ça vaut pas la même chose que une heure de ménage. J'estime que mon heure de maths, elle vaut 20 schrumpfs et une heure de ménage, seulement 5 schrumpfs dans la société, c'est pas payé pareil. Tu vois, le fait de donner un cours et de faire du ménage. Et il y avait aussi des gens qui disaient, ma robe, je suis désolée, elle vaut bien facilement 30 schrumpfs et là, ta paire de godasses, elle en vaut pas plus de 2. Tu vois, je veux dire, c'est en réalité, je suis désolée, mais une monnaie fictive par définition, donc toutes ces histoires de monnaie fictive, donc d'équivalence, ça peut être les bitcoins, ça peut être des schrumpfs, ça peut être tout ce que du troc pur. C'est dès qu'il y a une notion d'équivalence, hop, tu reviens au principe du capitalisme. Enfin, j'espère que ma démonstration vous a convaincu.
D'autant plus que ça a été un débat dans le mouvement libertaire, notamment qu'a opposé, par exemple, Bakounine et Kropotkine. Ce terme, ce problème de l'équivalence, Bakounine. Il était sur le principe de la prise au tard, enfin, etc. De la prise au tas, enfin genre on produit, on se sert, si tu veux, voilà. Donc sans notion d'équivalence, effectivement un certain nombre d'anarchistes pensaient que dans le fait d'établir les choses sur le mode des équivalences, effectivement, ils pointaient, comme tu l'as fait il y a quelques instants, le danger de tout doucement, progressivement réintroduire la logique capitaliste, pardon, dans les rapports humains.
Je m'excuse juste, pas tout doucement, direct. Dès que tu as un truc d'équivalence, dès que tu commences à mettre le truc en place, les gens, ils estiment leur bien en schrumpf ou en n'importe quoi équivalent. Et directement, la notion d'équivalence introduit immédiatement, par principe, l'idée d'injustice, d'inégalité, de contrainte. C'est pour ça que j'ai donné ces exemples-là. Il n'a pas attendu des années le gars qui faisait des cours pour dire attends, tu vas pas me raconter qu'un cours de maths, une heure de cours de maths, c'est pareil qu'une heure de ménage. C'est parce que c'est une notion l'idée que si tu fais des équivalences en troc, ben tu dis tiens, je te donne mon slip ruiné en échange de ta voiture. Tu t'attends pas 1000 ans pour dire attends, ça va quoi. Non mais c'est vrai quoi, tu vois, tu te dis c'est l'idée des équivalences introduit directement des notions comme ça.
Voilà, on arrive au terme de l'émission. Voilà, donc ça fait toujours un petit peu des pistes, ma foi, des pistes de réflexion. Et je pense que c'est vrai qu'il faut faut élargir son champ de pensée, ne pas l'enfermer dans le champ étroit que nous propose le monde capitaliste, y compris en y cherchant des alternatives, des possibilités d'aménagement, de comment ralentir cette course folle. Sinon, on reproduit exactement ce qu'on est censé combattre. Et donc élargir son champ de réflexion paraît aujourd'hui plus que jamais une nécessité. On va écouter La Promesse du Bonheur, LPDB. Alors c'est un groupe dans lequel le clavier est quelqu'un qu'on connaît bien, puisque c'est Gilou, qui animait longtemps, enfin il y a déjà une dizaine d'années facilement, qui animait avant lundi matin une émission qui s'appelait Les Enfants de Cayenne, et qui est revenu il y a déjà quelques semaines sur Radio Liberté.
C'est une émission autour de la culture punk.
Et donc qui est revenu il y a quelques semaines sur les ondes de Radio Libertaire, à travers une émission dont tu peux peut-être nous dire un petit mot, Nicolas, qui s'appelle Les Amis de Maurice Joyeux.
Oui, Les Amis de Maurice Joyeux, tous les un dimanche sur deux. C'est le matin, 10h, 10h30, de 10h à midi, je crois. Donc, voilà.
Et ça parle de
Et
quoi
donc,
celle que tu as écoutée, par exemple.
Bah, la dernière, c'était... Bah, c'est pas l'anarchisme. La dernière, c'était sur les prisonniers anarchistes russes, avec une invitée, cette fois-là. C'est pas toujours le cas, mais là, il y avait une invitée donc, qui milite pour ça, sur ce sujet-là. Et voilà, bah, Maurice Joyeux étant un anarchiste mort, mais qui était notamment, je crois... au début de la Fédération anarchiste, par là. Et qu'on entend dans le générique en disant des choses, la barricade, c'est le plus beau des monuments.
Il a écrit des bouquins, je crois, qui sont disponibles à Publico, non, Maurice Joyeux?
Bah, il a écrit pas mal de choses, alors dont un certain nombre de textes sont épuisés. Mais ce qu'on peut toujours trouver de lui, c'est ses souvenirs, ses mémoires, souvenirs d'un anarchiste. Un tome qui a été publié aux éditions du Monde Libertaire, et puis un autre qui a été publié aux éditions Tops, voilà, et qu'on peut trouver à la librairie Publico. Mmh. Et donc l'émission, c'est tous les dimanches? Non, tous les 15 jours, le dimanche?
Non, dimanche sur deux, dimanche matin, 10h midi. Et voilà, il se propose d'aborder un certain, enfin, différents sujets d'un point de vue anarchiste. Et la première, c'était sur Maurice Joyeux lui-même. La dernière, sur les anarchistes russes, prisonniers en ce moment. Et j'en avais fait une aussi sur le... Sur les préoccupations écologiques.
Et juste, puisqu'on a évoqué l'entonnoir tout à l'heure, vous pouvez... l'entonnoir, donc, c'est une émission sur la résistance à la psychiatrie.
Ouais.
Et donc c'est le mercredi de 9h à...
Tous les mercredis, 9h30, 10h30.
9h30, 10h30. Oui. Oui.
Voilà, il est 13h passé, on va se quitter. Alors on va écouter le groupe, hein, La Promesse du Bonheur, LPDB, donc, dans lequel joue Gilou, qu'il est, je crois, chant, clavier, dedans. On écoute donc ce groupe, hein, donc La Promesse du Bonheur. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine, normalement. N'hésitez pas à nous retrouver sur notre site anarchiste.info, podcast streaming, les émissions de lundi matin qui sont annoncées, des articles, bien évidemment, des annonces de débats quand ça nous plaît ou quand on en organise nous-mêmes. Voilà, ça continue sur Radio Libertaire. Restez à l'écoute, au revoir, à la semaine prochaine. Le plafond de verre ne peut pas se passer. Tarte dans la boîte à papa.
boîte à papa, part dans la boîte à caca.
L'ascenseur social est bloqué.
T'as dans la boîte à papa, part dans la boîte à caca.
Aucun risque de dégrader.
T'as dans la boîte à papa, part dans la boîte à caca.
dans ce nouvel épisode des Amis d'Orwell. Nous irons donc ce soir à Sarcelles, à Saint-Denis et à Marseille, à la rencontre de trois familles endeuillées récemment dans la mort d'un fils ou d'un frère. Il s'agit de Ibo, Yanis et Souhait. D'abord à Sarcelles, c'est là que vivait Ibrahima Ba, dit Ibo, un biker, un fan de moto. Il y a 3 ans, en octobre 2018, il est mort sur sa moto. Les policiers de Villiers-le-Bel lui ont coupé la route. C'est l'une des principales causes de la mort de jeunes en contact avec la police, soit percuté par des voitures de police ou mort lors d'un accident pendant une course-poursuite avec les flics. C'était donc à Sarcelles, le 9 octobre, avec de nombreuses familles venues soutenir les proches, familles, membres du réseau d'entraide Vérité et Justice.
Bonjour, bienvenue, merci d'être là. On est à Sarcelles, la ville de Ibo. On est avec de nombreuses familles aujourd'hui, ce 9 octobre 2021, jour anniversaire des 40 ans de l'abolition de la peine de mort. Cette peine de mort qui n'a toujours pas été abolie puisqu'il y a encore toujours de nombreuses victimes de violences policières ici en France. Donc aujourd'hui on est nombreux aujourd'hui pour le dénoncer à Sarcelles, la ville, la patrie de Ibo. Tout le monde dit que c'est inutile, ça ne sert pas forcément à grand chose et que ça va mener à rien. Ben moi je peux vous montrer par cette marche que ça sert beaucoup, parce que c'est la police qui a tué Ibo, et si on ne faisait pas ça on ne le saurait pas. Aujourd'hui je vous pose une question: qui est-ce qui a tué Ibo? Qui est-ce qui a tué Ibo? Qui est-ce qui a tué Ibo? Est-ce que la moto a été volée? Est-ce que la moto a été volée? Ils ont dit que la moto était volée, ces menteurs. Si on faisait pas d'action, on aurait dit c'est un voleur, ce jeune de 22 ans, un Français. Eh ben, c'est grâce à ces actions-là, à toutes les personnes qui disent non, ça sert à rien. Ils auront toujours raison, ils seront jamais sanctionnés. Qu'importe la justice, ce qui compte c'est la prise de conscience de la société, que les gens ils sachent, même s'il y a des non-lieux, que l'État a une doctrine pour blanchir les policiers qui tuent les citoyens, des jeunes innocents, des pépites de la nation. Il n'y a pas qu'Ibo malheureusement, comme on le sait. Il y en a eu avant, il y en a eu après, il y en aura encore. Mais à un moment donné, ça cessera, parce qu'on est là, vous êtes là, c'est grâce à vous.
Bonjour, je m'appelle Adja, je suis la grande sœur d'Ibo, d'Ibrahima Ba pour d'autres. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire de mon frère, je vais vous relater l'histoire, les faits. Mon frère était un passionné de moto. Il circulait le 6 octobre à Villiers-le-Bel, alors qu'il devait retrouver des amis sur un champ, pas loin de Villiers-le-Bel, pour pratiquer ensemble leur passion. En ce jour du 6 octobre 2019, des hommes sous l'uniforme en décideront autrement. Il n'arrivera jamais à destination. En effet, alors que ces policiers étaient sur place pour une interpellation, lorsqu'ils entendent mon frère arriver, selon de nombreux témoins, ils déplacent brusquement leur fourgonnette en direction de mon frère, sans laisser aucune issue sur la route, mis à part le trottoir. Le choc est si intense que mon frère n'aura aucune chance. Il volera d'un côté et sa moto de l'autre. Il meurt sur le coup. Sur le lieu du drame, il n'y avait pas moins de 3 caméras de vidéosurveillance. 2 sur la rue et 1 sur le bus qui était à l'arrêt en face du poteau. Aujourd'hui, plus de 2 ans après les faits, alors que nous nous sommes constitués partie civile, ni notre avocat, ni nous, la famille, n'avons copié de la procédure, ni nous n'avons non plus pu visionner les vidéos. Notre avocat a été autorisé à visionner une seule des 3 vidéos, mais on ne lui a pas remis la vidéo en main pour qu'il puisse, dans un premier temps, l'exploiter, mais ensuite nous la faire visionner également. Rendez-vous compte, 2 ans, 2 fois 365 jours, et nous n'avons toujours pas accès à la vérité. Combien de temps a-t-il fallu aux policiers lors des manifestations en mai 2018 pour remettre la vidéo à Benalla? La vidéo où on le montrait en train de tabasser un couple de manifestants, alors qu'il s'arme, lui, M. Benalla, d'équipement de CRS. Il se dit avoir le pouvoir, le permis de tabasser, sans avoir à rendre compte. Mais ce n'est pas le seul, malheureusement. Plusieurs hommes, des hommes sous l'uniforme, se donnent le droit de tabasser, humilier, massacrer, démembrer, tuer, sans crainte de sanctions, de poursuites pénales, car ils savent qu'il y a derrière eux tout un système qui absout, qui ferme les yeux, un déni total.
Ibo ! Ibo ! Bien joué, les mecs !
Bravo !
Ibo ! Ibo ! Je vais passer la parole à quelques familles qui aussi ont vécu ces drames, qui aussi ont essuyé des non-lieux. Pas de justice, pas de sanction. On a criminalisé leurs défunts, comme ce fut le cas pour Ibo.
Bonjour, je suis Farid Eliamni, le frère de Wissam Eliamni. Vous voyez ce que vit la famille là d'Ibo ? C'est ce qu'on vit tous. Il y a une totale différence entre leurs principes et les actes. Vous savez où ils sont là, Macron et tout ça ? Eh bien, ils sont au Panthéon, là, en train de fêter l'abolition de la peine de mort. Et BFM et tout sont là-bas. Sauf que nous, dans la réalité, on la vit, la peine de mort. C'est des conneries, tout ça. Tout ce qu'ils disent, leurs paroles ne vaut rien. Leurs paroles ne vaut rien. C'est vous qui êtes présents. La force de ce pays, la force de cette ville, c'est vous. Vous valez 10 fois plus qu'eux. Parce que eux, ils sont rien sans vous. Et en plus, ils tiennent pas leurs paroles. Leurs paroles, ils la tiennent pas. Les experts mentent. Ils disent qu'il y a une justice, mais il n'y a pas de justice. Leur justice est simplement faite pour vous mentir, pour faire semblant.
Bah, je vais appeler les jeunes alors,
On s'est pris dans la tronche des gaz lacrymogènes, des matraquages. Aujourd'hui, je suis membre du collectif Mutilé pour l'exemple. Et aussi membre du réseau d'entraide vérité et justice. Le collectif Mutilé pour l'exemple a été créé pour soutenir et accompagner les mutilés, les blessés lors des manifestations. Aujourd'hui, on dénombre de manière officielle, parce qu'on sait très bien qu'on a des mutilés et des blessés qui ne sont pas comptabilisés, 32 mutilés à l'œil, 6 mutilés aux mains, 6 pieds arrachés, pour avoir voulu juste une France meilleure, avec plus de justice sociale, fiscale et climatique. C'est tout ce qu'on demandait, nous. De la justice pour tous. On n'était pas vraiment conscients des violences policières et on ne pensait pas que dans un cadre manifestation, on rencontrerait ces violences. On ne les a pas rencontrées, on se les a pris en pleine gueule. Ce que les quartiers populaires vivent depuis 40 ans, on se les a pris en pleine gueule. Et aujourd'hui, on essaie d'avoir justice. Sauf que, comme pour les familles de victimes de violences policières, on est classé sans suite. On n'a pas les vidéos, du coup on ne sait pas qui sont les tireurs, on ne sait pas qui sont les violeurs, car aussi la police viole, on n'en parle pas beaucoup, mais lors des gardes à vue, la police elle viole, la police elle tue, la police elle mutile. Et quand je dis la police, je parle aussi de la gendarmerie, je parle aussi des hommes qui sont en bleu en prison. Tous ces gens qui ont aujourd'hui un uniforme, est-ce que cet uniforme, c'est le permis de tuer, le permis de blesser, le permis d'humilier ? Je ne sais pas. En tout cas, c'est ce que moi je vois. Alors quand ils n'ont pas d'uniforme, et comme on voit, il y a le maire de Stains, ceux à Stains n'avaient pas d'uniforme, ils n'avaient même pas de brassard. C'était des hommes comme vous, comme moi. Et ils sont venus et ils ont tiré à 11 reprises dans une voiture immobilisée. Voilà ce qu'on vit aujourd'hui. Et c'est pas qu'aujourd'hui, en vérité. Je dis aujourd'hui, mais c'est une grosse connerie. Voilà ce que vivent les gens depuis 40 ans en France. Sauf qu'aujourd'hui, on a les caméras. On a les réseaux sociaux. Et on a les téléphones portables qui nous permettent de filmer. Ça nous sauve. Sauf quand il faut rentrer dans la loi, un texte de loi qui nous interdit de les filmer. Voilà pourquoi on nous interdit de filmer la police. C'est pour qu'on n'ait pas de preuves et qu'on n'ait pas justice et qu'on ne sache jamais la vérité. Parce que la justice est une chose, mais pour les personnes décédées, il n'y a pas de justice en vérité. Tout ce qu'on veut, pour de vrai vrai, hein, c'est la vérité. C'est les vidéos pour Ibo, c'est savoir pourquoi le poids de plusieurs hommes se sont retrouvés sur le corps de Lamine. C'est ça qu'on veut. Pas de justice,
pas de justice.
Et vous n'aurez jamais la paix, les messieurs, dames. Jamais.
Toi, tu fais des buts, la ligne, vous faites des buts au dernier moment.
Ils sont pas capables de me répondre mes questions jusqu'à là. Et le procureur de Rennes, il a décidé à classer l'affaire. J'ai dit, ça n'arrête pas là. Je veux une reconstitution des faits dans le lieu. Et ils sont pas voulu venir devant mes yeux noirs parce qu'ils ont peur de moi. Moi, j'ai pas peur de eux. C'est eux qui ont peur de moi. Et le reconstitution des faits, j'étais face, j'ai réussi à faire venir tous les 8 policiers qui sont assassinés mon frère, sans foi. Je me suis entouré partout avec des policiers, des experts, des médecins, des avocats, le juge, le procureur. Et j'étais très fier au milieu, de se trouver au milieu de eux, le lieu où ils ont assassiné mon frère. J'étais très fier de moi. À 18h, le procureur de Rennes, il a parlé dans les médias que l'affaire elle est en cours de terminer. Tous les médias ils sont venus vers moi pour me poser cette question. J'ai dit c'est loin de finir. Parce qu'ils ont un enfant trahi sénégalais. Et je continue me battre jusqu'au dernier souffle pour mon frère.
Justice pour Babacar.
Justice pour Babacar. C'est vrai, j'ai pas de famille en France. Mais aujourd'hui, je me sens plus seule parce que vous êtes là. Mon frère, bien sûr, il me manque beaucoup.
Pas de justice, pas de paix.
Parce que c'est comme si c'est mon fils. Il a grandi avec moi au Sénégal. J'ai fait beaucoup de voyages avec lui. Il a décidé de me joindre en France. Il a passé les militaires années comme tous les jeunes. Elle était sans papier. Il a fait un an seulement. Quand il est arrivé tout de suite, il m'a dit que je voulais aller au foot. Je l'ai inscrit. Il jouait le foot. Le procureur de Rennes, qu'est-ce qu'il a fait? Il est en train de m'essayer de m'embrouiller, mais ça ne marche pas avec moi. Ça ne marche pas avec moi, je vous dis. Parce que je vous posais des questions depuis la reconstitution des faits. Et les morts analysent des gouttes de sang, le lieu où ils ont assassiné mon frère, la police. Vous n'êtes pas même pas capable de me répondre mes questions. Qu'est-ce qu'il a fait, le procureur de Rennes? Il est en train de parler la vie de mon frère avant au Sénégal, qui n'a rien à voir avec sa mort en France, avec la police française. Le vrai cisé, c'est pas la vie de mon frère avant. Le vrai cisé, elle est où l'élite défense? Le vrai cisé, je veux que la procureure de Rennes, il respecte mon dossier, comme ils ont conseillé les familles qu'on doit respecter des dossiers quand on a à la main. Mais je vois qu'ils ne respectent pas mon dossier. Et je veux qu'ils respectent aussi le mémoire de mon petit frère. Le combat continue pour Ibo, le combat continue pour Lamine, le combat continue pour tout le monde, pour Babacar. Je vous dis, le 4 décembre cette année, je vous invite à venir toutes et à tous me soutenir à Rennes pour le mémoire de Babacar. Merci.
Bonjour à tous. Moi, je m'appelle Léonel Gomez, petit frère d'Olivier Gomez. Je vais vous raconter très brièvement ce qui s'est passé à Poissy. Alors, mon grand frère Olivier Gomez, il a été tué le 17 octobre 2020 en bas de chez lui à Poissy, de 3 coups de feu par la police. Les policiers, ce qu'ils ont dit après ça, c'était qu'il y avait une course-poursuite, un refus d'obtempérer et que mon frère a essayé de foncer sur eux en voiture, une fois qu'il est arrivé en bas de chez lui. On ne savait pas comment expliquer ça à nos parents lorsqu'on l'a appris le matin même. Ça s'est passé la nuit. Nous, ce qu'on a fait derrière ça, c'est se battre pour établir la vérité. Et lorsqu'on a eu la vérité, c'était que des mensonges. Ils ont dit que mon frère, il a essayé de foncer sur eux. Alors que pas du tout. Le policier, jusqu'à maintenant, il dit qu'il a tiré, il était face à la voiture. Mais sauf que on a eu l'autopsie. Et derrière ça, ce qui est fou, c'est qu'il n'y a pas eu de contre-autopsie. Donc, ce qu'on voit sur le corps de mon frère, c'est que des balles derrière. C'est-à-dire qu'ils l'ont tiré dessus, sur le côté et derrière. À aucun moment, le pare-brise de la voiture de mon frère a été touché. Elle n'a pas été explosée. Mais le policier dit qu'il a tiré 3 fois de face et qu'il était en danger. D'accord. Donc, être en danger, tirer 3 fois et 3 fois le toucher, en sachant que le policier qui a tiré, il est moniteur de tir. Donc, il sait où il tire. Mais jusqu'à maintenant, lorsqu'il a été auditionné, parce qu'il faut savoir ce qu'il a été reconnu, lorsqu'il a été auditionné, ce qu'il a quand même dit, c'était lorsqu'on lui a posé la question de comment ça se fait que vous dites que vous étiez en danger, que vous avez tiré de face, mais le pare-brise n'est pas touché. Il se met à pleurer et il dit qu'il ne comprend pas. Il ne sait pas comment il a tiré. Il ne sait pas comment ça se fait que le pare-brise n'est pas touché. Pourtant, les balles sont derrière. C'est que toutes les balles sont rentrées derrière, mon frère, sur son dos et au niveau de la clavicule. Donc aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est la justice, la condamnation. Derrière ça, le policier a été mis en examen pour homicide volontaire. Comme quoi, tout est possible. Battez-vous jusqu'à la fin. Quoi qu'il arrive, ne lâchez pas. Et là, je m'adresse à toutes les familles. Ne lâchez pas. Nous, on a eu ça, certes, en peu de temps. Il y a des familles qui se battent pendant... Ça fait 2 ans, 3 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans. On a eu ça en peu de temps, certes. Mais tout prouve que... Tout peut payer à la fin. Dire que voilà, ne lâchez pas. Ne lâchez pas, battez-vous jusqu'à la fin. Et peut-être qu'on obtiendra tous une justice. Ce n'est pas le cas encore pour nous. Attention, le policier a été mis en examen pour homicide volontaire. Il n'exerce plus dans la rue, mais il travaille toujours. Pourtant, il est mis en examen pour homicide volontaire, pour meurtre. Faites attention à vous si demain vous croisez des policiers, des gendarmes, etc. Si ils rentrent dans la provocation, ne les calculez pas. C'est ce qu'ils veulent. Regardez encore tout à l'heure. C'est accepté par la préfecture, etc. Mais aujourd'hui, c'est comme si c'était la police qui décidait. C'est plus les instructions hautes, c'est qu'on donne des ordres. Mais regardez, ces policiers ne respectent rien. C'est eux les chefs, en vrai de vrai. Ils ont le droit de tuer, ils ont le droit de violer, ils ont le droit de tabasser, ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent. Et moi, il y a une chose que je ne veux plus entendre, c'est bavure policière. Ce n'est pas des bavures. Les bavures, c'est lorsque tu ne fais pas exprès. C'est lorsque tu ne fais pas exprès. Donc moi, tout ce qui est bavure, etc., je ne veux plus entendre ça. Soit on parle de violence policière, ou soit on ne parle pas. Et attention, il y a une chose aussi à vous dire. Il y a les médias indépendants qui sont avec nous et tous les gros médias, faites attention parce que j'ai pas peur de le dire aujourd'hui. Le Parisien a sorti un article un jour après la mort de mon frère en disant que du n'importe quoi. Donc jusqu'à maintenant, aucun journaliste du Parisien a cherché à nous joindre. Nous, c'est-à-dire que ce qu'ils ont divulgué, c'est la version du policier. C'est facile. Aujourd'hui, je peux tuer quelqu'un et dire je l'ai tué parce que j'étais en danger, je me sentais pas bien ou autre. Je me sentais menacé. Non, c'est que derrière ça, faites votre travail, mais faites-le correctement, parce que derrière ça, il y a des familles qui pleurent. On en est jusqu'à maintenant. Là, je vous parle parce que grâce à vous, j'ai cette force-là de parler. Mais en vrai de vrai, là, je vais rentrer chez moi, ça sera encore un problème. Parce que je vais voir ma mère, je vais voir mon petit frère qui est là avec vous, je vais voir ma grande sœur, je vais voir mes parents. Je pense que, je sais pas comment vous expliquer ça, mais cette peine-là, elle est incroyable. Mais derrière ça, les policiers, ils font leur vie, ils continuent à travailler, ils ont leur salaire tous les mois, ils embrassent leurs femmes, leurs enfants ou autres. Mon frère, il avait 3 enfants. Il a 3 enfants. Il a une femme derrière. Et ça s'est passé en bas de chez lui pendant que ses enfants et sa femme dormaient. Et lorsque je vous dis en bas de chez lui, c'est que c'est vraiment en bas de chez lui. C'est pas à 10 mètres, c'est en bas de chez lui, ça s'est passé. Vous voyez ? Pour vous expliquer que, voilà, encore une fois, derrière ça, tout est possible. Battez-vous jusqu'à la fin. Le policier est mis en examen pour homicide volontaire. Nous, ce qu'on veut aujourd'hui, c'est être entendu par tout le monde.
Les courageux, les braves, qui foutent le seum à la police, ces meurtriers de bikers, ces meurtriers de citoyens français protégés par l'État, qui sévit avec la blanchisseuse de l'UGPN. L'UGPN qui prend le soin d'écouter les témoins en premier, après avoir recueilli l'ensemble des éléments des témoins, ils vont vers les policiers pour leur dire comment est-ce qu'ils doivent se défendre. Parce qu'auparavant, l'UGPN, la blanchisseuse, le syndicat de police a déjà recueilli les différents éléments. Dans différentes violences policières, il y a des caméras de vidéosurveillance. Ces caméras ne sont jamais exploitées. Comme c'est le cas pour l'affaire Gay, où il y a eu un non-lieu. Gay a pris, il s'est fait tirer dessus 8 fois, sous des caméras. Et jamais la justice n'a donné ces caméras, parce que la justice protège les policiers. Dans l'affaire Ibrahim Abba, il y a 3 caméras dans l'affaire Ibo, dans l'affaire de ce biker. Un membre de toutes ces personnes qui nous entourent, qui nous escortent et qui courageusement viennent à chaque fois qu'on vient réclamer justice. On veut juste justice. On veut rien d'autre. Est-ce que c'est un crime de demander justice ?
Voilà, c'était des prises de parole enregistrées à Sarcelles début octobre par l'équipe de l'émission L'actualité des luttes sur FPP. Merci à elles et à eux de nous avoir permis de reprendre ces témoignages. Et pour illustrer justement la passion de Ibo, la moto, comme tant d'autres jeunes bikers, on va diffuser des extraits d'un film documentaire réalisé il y a 1 an par le groupe ACTA, que vous pouvez retrouver sur leur site acta.zone. Ce documentaire s'appelle « Des bâtons dans les roues » et en voici quelques extraits.
Le cross-bitume, c'est comme une drogue. T'as vu, les gens, ils fument du shit. C'est leur drogue. T'as vu, nous, le bitume, c'est notre drogue. On aime faire de la moto. On est là, on fait de la moto tous les jours. Ils essaient de nous cartonner. Il y a pas longtemps, à Noisy, ils ont cartonné quelqu'un. À Villeneuve, la Garenne, ils ont cartonné une personne. C'est pas eux qui vont nous faire fuir, de faire notre passion, t'as vu ce que je veux dire? J'ai du mal à m'exprimer, t'as vu ce que je veux dire, mais c'est la roue la tête. On vole pas, on deal pas, il n'y a pas de grave, on tue personne. La moto, c'est une passion. Tous les jeunes du quartier, ils aiment ça. Et voilà, t'as eu tous ceux qui sont là, et la plupart, ils font tous du cross-bitume.
Ouais, tous ils tordent en général.
Et la plupart ils tordent, je t'ai pas observé, ils tordent. Regarde mes mains, laisse tomber, même ma jambe, regarde. Ouais.
C'est les risques du métier, c'est rien.
T'as vu, mon parking que j'ai fait, c'est par rapport au Condé.
Ouais.
Par rapport au Condé.
Ouais, ils ont pris en charge tout ça.
T'as capté. Là, ouais. ils m'ont barré la route. T'as capté. Ouais. J'ai des Veski. Il y a une voiture juste de tech qui était juste derrière eux à ma cartonnée.
Ouais, je vois.
Voilà. Le frérot, il est là.
Notre passion, c'est ça, voilà.
Ouais. Tous les mecs de cité kiffent ça. Mais les Condés, ils nous en empêchent à chaque fois. T'as capté ce que je veux dire?
Je vois.
Voilà. Regarde. Encore, pas de YouTube. Et lui, il a pas de casse, mais t'inquiète pas, il sait ce qu'il fait. Il sait ce qu'il fait, même lui, il a déjà fait un accident. T'as vu, c'est une drogue, voilà.
Ouais, je vois.
La voisine.
Ah, toute la journée, ça, ça entend la bécane. Ouais, vas-y, t'as une petite course à faire pour la voisine, vas-y, comme tout à l'heure.
Bike life, en gros, c'est la vie de moto, tu vois ce que je veux dire?
Donc c'est un style de vie?
Ouais, c'est un style de vie, exactement. En vrai de vrai, c'est inspiré des États-Unis.
C'est à Miami.
Ah ouais, regarde, il y a l'hélicoptère.
Oh, oh ouais, c'est quelque chose.
Il y a 5 étoiles dans le GTA, là.
Voilà, c'est une culture urbaine, c'est issu des quartiers. Nous, en France, t'as vu, depuis longtemps, il y a des motocross depuis qu'on est jeune, tu vois, dans les quartiers, des grands qui allaient dans des bois, dans des terrains, etc., tu vois.
Ouais.
Mais le délire de lever...
Ouais.
Certains, dans un bon langage, je dirais wheeling, tu vois ce que je veux dire?
Ouais,
voilà, nous on dit lever, t'as capté?
Ouais.
Ce délire-là, t'as vu, ça fait pas si longtemps que ça qu'il est en France.
Ouais,
ça fait quoi? Ça doit faire aller une quinzaine, vingtaine d'années max. On a grandi avec ça. Il y en a qui kiffaient aller taper le foot, et il y en a d'autres qui kiffaient voir les gens passer en bécane. T'as vu, tu pouvais rester toute la journée à la cité à attendre que quelqu'un il passe en bécane quand t'es petit, tu vois ce que je veux dire?
Et on habite tous dans des quartiers, d'où c'est un quartier, les grands faisaient de la moto. On était là, on les regardait jusqu'à ce qu'on ait les moyens de s'en prendre une. On a commencé à tâter, on a préféré ça à plein d'autres choses. Malheureusement, notre passion, elle est un peu dangereuse, mais on peut rien y faire.
En vrai, nous, t'as vu, on aimerait que ce soit légal. On est tous passés par là à faire dans la cité. T'as vu, sans le vouloir, on dérange les gens, alors qu'en vrai, on le veut même pas, tu vois, déranger. Parce que, t'as les voisins, c'est nos familles aussi, tu vois ce que je veux dire? Que ce soit, je te le parle en cité, comme dans milieu pas cité, tu vois ce que je veux dire, dans des pavillons ou quoi, tu vois. T'as vu, on a fait des accidents. Voilà, malheureusement, on a eu des galères avec la justice, avec la police notamment, tu vois ce que je veux dire, avec, surtout, tu vois, avec tout ce qui se passe maintenant.
Ouais.
C'est-à-dire, la majorité des gens de ce mouvement, ils font tout, tu sais, pour que, en fait, la majorité est pour que ce domaine devienne un sport et que ça soit légal. Et que même si ce n'est pas un sport, qu'au moins on nous laisse une ligne où pratiquer notre passion, tu vois ce que je veux dire.
Ouais.
C'est une passion comme tant d'autres, frère. T'as capté, je t'ai dit, il y a des gens, ils font du drift, ils ont des autorisations de faire dans des aérodromes ou je ne sais quoi. Tu vois ce que je veux dire?
Nous, on
aimerait avoir ça, ne serait-ce que deux fois dans le mois. Tu vois ce que je veux dire? Juste deux dimanches dans le mois.
Chacun a besoin de son truc pour se canaliser. Il y en a qui ont besoin d'un verre, il y en a qui ont besoin d'une clope, d'un joint. Nous, on a besoin de l'odeur de l'essence.
Ouais.
Ça va peut-être éviter des choses à plusieurs personnes, je crois.
Ouais.
Il y a des mecs, s'ils ne feront pas de la moto, ils seront en prison sûrement.
Un petit 18 ans en plein ramadan. Eh, le petit, il a toute la vie devant lui, il se fait tamponner par les keufs.
C'est pas une vie. On fait notre passion, cousin. Les keufs viennent, ils nous tamponnent.
Les keufs, tu connais, des fois, ils nous extinguent en plein nez, en pleine roue et tout. Tu connais, c'est dangereux.
Tu te fais gazer. C'est dangereux, cousin.
Le danger, c'est pas faire de la moto, le danger. Le danger, c'est la police, ma gueule. En un mois, t'as eu Villeneuve-la-Garenne, Argenteuil, Noisiel. Ça, c'est tout ce qu'on connaît.
Mais ce qu'on connaît pas,
on n'en sait rien du tout.
Je sais pas s'ils aiment bien ça ou s'ils aiment bien que nous on meure à cause de ça, s'ils veulent qu'on fasse des accidents. Je sais pas, c'est quoi leur projet, moi.
Même aller voler. Elle mérite pas la mort.
T'as vu, c'est ça qui me vénère avec la police qui capte pas. Quand t'es petit, tu fais des bagarres avec les mecs d'une autre cité, etc. Ils sont sur vos côtes, nanana. T'as vu, ça part en vrille et tout. Mais frère, la bécane, on n'est pas du même quartier, moi et lui. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je suis une plaisance des Caouettes, il est des Fauvettes à Neuilly-sur-Marne.
Ouais.
Frère, la bécane, ça nous rallie.
Ouais.
Voilà, c'est la vérité. Il te le dira, la bécane, ça nous rallie des gens.
Ça
fédère,
ça
a commencé par la guerre. Voilà, tu vois ce que je veux dire?
Ça rallie des gens.
Tout le monde connaît les histoires dans le 93.
Exactement.
Dès que tu sors de ta ville, il faut bouger à 10 minimum. Nous, c'était comme ça, alors qu'on c'était des villes collées. C'est la bécane, carrément, qui les a ralliés tous. Toutes les villes, la majorité, ils ont tous fait des demandes au maire de leur ville. Est-ce qu'on peut avoir une zone le dimanche, une ligne, tu vois, même dans une zone, dans toutes les villes, il y a une zone industrielle en général, tu vois ce que je veux dire? Non, c'est mort, tu vois ce que je veux dire? Là, tu vas à la zone industrielle de Neuilly, là, c'est mort, la police, ils arrivent en mode cobaye, il n'y a pas moyen de parler. Il n'y a même pas moyen, toi t'es là, t'es posé, tu vas lui dire, tiens, vérifie, mes numéros, je suis là, il n'y a pas de circulation, j'ai mon casque, j'ai mes gants.
On a remarqué que tu t'isoles ou pas,
ils sont là. Ouais. Tu vois ou pas? Ouais. Donc les mecs ils se disent, autant aller sur la route parce que ça revient au même.
J'ai envie de te dire, t'as plus de chances d'esquiver la police dans du trafic que sur une zone fermée. Tu
vois. Ceux qui savent bien ce qu'il y a, la plupart ils font du hors-piste.
Bien sûr. Ouais.
Tu vois, ils aiment pas aller faire dans les règles, ils sont même pas libres. Tu vois,
même les bolides.
Même c'est un sport extrême,
il y a des mecs, c'est des riches, ils vont acheter des gros fers. Ça va pas les empêcher de rouler à 300 parce qu'ils kiffent sur l'autoroute. Tu vois ce que je veux dire? S'ils commençaient déjà un peu à encadrer le truc, à laisser des endroits juste pour ça, tu vois, ne serait-ce que le dimanche, tu verrais que ça serait moins le bordel déjà.
Ouais,
mais vraiment, tu verrais que les gens, ils se diraient, vas-y, le dimanche, il y a telle ligne qui est ouverte, vas-y, on va pas se prendre la tête la semaine à pouvoir se faire, ou le samedi à se faire prendre nos motos, on sait jamais, on va aller à tel endroit le dimanche.
Combien de morts par rapport à ça? Tout à l'heure, on parlait d'accident. Là, je pense que tu connais plus d'histoires des morts qui ont été tués par la police que des mecs qui ont tué des petits ou même qui ont juste fauché des petits et qu'ils n'ont rien eu, tu vois. Que ce soit un petit ou pas, qu'ils ont fauché un mec en moto.
Ouais, mais va dire ça à la daronne qui a perdu un petit d'un dommage collatéral d'un rodeo urbain, tu vois.
Bien sûr, bien sûr, je suis d'accord.
Ce que je veux dire, tu ne vas pas dire ça aux parents aussi, des jeunes qui ont été tués par les keufs. Tu vois ce que je veux dire? Les petits voulaient juste faire de la moto.
Malgré que ce soit de la moto, ça ne mérite pas la mort. On ne mérite pas de se faire tuer, qu'il y ait des trucs comme ça. Ça ne mérite pas tout ça. Ça mérite pas tout ça.
Vous êtes toujours dans les Amis d'Orwell sur Radio Libertaire. Après Sarcelles, un mois plus tard, nous étions à Saint-Denis, autour de la famille de Yanis, 19 ans. Lui aussi était en deux roues. Lorsqu'il a rencontré la police de Saint-Denis au mois d'avril, il a terminé à l'hôpital, il a fait près de 2 mois de coma et il est décédé le 3 juin dernier. Le plus horrible dans cette affaire, c'est que le lendemain de sa mort, la famille organisait 3 jours en sa mémoire dans une salle de quartier de la Plaine Saint-Denis. Et les flics du coin ont pris prétexte du couvre-feu en vigueur à ce moment-là pour les agresser à coups de grenades lacrymogènes, grenades explosives et de lanceurs de balles de défense. Il y avait des enfants et des mères de famille. On vous propose 3 prises de parole enregistrées donc le 7 novembre dernier à Saint-Denis, des prises de parole de membres de sa famille. On se retrouve juste après pour partir à Marseille.
C'était un jeune de 20 ans, passionné de moto. Le soir du 14 avril 2021, Yanis était avec ses amis. Il m'a appelé au téléphone à 23h15 pour me dire qu'il rentrait. Mon autre fils, s'inquiétant de ne pas voir arriver Yanis, a demandé à son ami son téléphone afin de pouvoir l'appeler. Après une dizaine d'appels, sans réponse, la police finit par décrocher. Ce dernier se précipite à la maison avec le téléphone. Il est à peu près 0h20 du matin. Entre-temps, ma fille et mon fils se précipitent sur les lieux de l'accident, où deux policiers leur disent « On vient d'arriver, on ne sait pas ce qu'il s'est passé. Allez au PC routier. » De là, moi, au téléphone, ils m'ont dit de me rendre d'urgence à la Pitié Salpêtrière. À l'hôpital, on me dit que mon fils est dans un état très grave. Les médecins ne lui donnent pas plus de 48 heures. Son pronostic vital étant engagé. Plongé dans le coma, il se battra pendant 49 jours avant de nous quitter le 3 juin 2021. Jusqu'à ce jour, je ne sais pas ce qui est arrivé à mon fils, qui l'a percuté, que s'est-il passé. Jusqu'à présent, personne ne m'a contacté. Je me suis déplacée au PC routier, poste de contrôle routier, où l'on m'a remis ses effets personnels, un briquet, des clés et une boîte d'AirPod ensanglantée. Dans un gant en latex. C'est une honte. On m'a également dit qu'on me recontacterait, mais depuis, c'est le silence total. Le 4 juin 2021, nous avons fait un repas commémoratif en hommage à Yanis. Ce jour de deuil s'est transformé en guerre. La police est intervenue à 21h05, pendant que tout le monde rentrait chez eux. nous avons été victimes de tirs, de LBD, de grenades, de désencerclement. Mon fils de 17 ans, à l'époque, a eu la main écrasée car un policier a jugé utile de shooter dans une porte alors que sa main se trouvait là. Des jeunes du quartier majeur et mineur ont été arrêtés. Tous les habitants du quartier de la Plaine Saint-Denis, venus rendre hommage à Yanis en ce jour de deuil, ont été horrifiés par le comportement de la police et par ce qu'il s'est passé ce soir-là. Une plainte collective a également été déposée contre cette veillée. Avec toutes ces questions restées sans répondre, je ne peux pas faire mon deuil, même si je sais que je ne le ferai jamais. Aujourd'hui, nous réclamons justice pour Yanis, ainsi que pour toutes les familles de victimes. Tout ce que je viens de vous raconter, je ne l'ai su uniquement que par le témoignage d'un ami à mon fils qui se trouvait là avec lui le soir du 14 avril 2021. Je ne sais pas qui a percuté mon fils. Je ne sais rien de cette fameuse nuit. Je réclame la vérité. Je réclame les vidéos. Je réclame justice pour mon fils, pour que Yanis ne soit pas mort pour rien.
Justice pour Yanis, justice pour Yanis, justice pour Yanis, justice pour Yanis,
justice pour Yanis,
justice pour Yanis.
J'ai maintenant 18 ans, en effet c'est moi qui ai eu la main shootée par la police. Je vais vous expliquer plus ou moins comment ça se passe maintenant actuellement depuis qu'on l'a perdu. C'est vrai que c'est un peu dur. Maintenant voilà, mon petit frère Naïm, qui lui ressemble énormément, il nous le rappelle beaucoup. Ça fait mal de voir qu'il va grandir sans son grand frère, sans quelqu'un pour le guider. Maintenant, on est là, on va tenir, on va voilà quoi. Ça reste dur, on va pas se mentir, mais on garde la tête haute, il faut être fort, on veut la justice, c'est ça qu'on veut le plus. On veut savoir comment mon frère est décédé, comment il nous a quittés. C'est pas possible qu'on ne sache rien du tout. On est sans réponse, on veut exactement, on veut la vérité. On veut très clairement la vérité, je comprends pas pourquoi il nous laisse sans réponse comme ça. On essaye de s'imaginer comment il a pu décéder, comment ça a pu se passer, mais sans réponse. On est toujours dans le doute total. On aimerait savoir comment ça s'est passé, en fait. Moi, ça me fait mal, ça me fait mal. Je le montre pas, mais ça me fait mal intérieurement. J'y pense tous les soirs. Je dormais à côté de lui. C'était quelqu'un sur qui je pouvais compter. C'était mon grand frère. Je veux savoir ce qui s'est passé. J'aimerais savoir. Ma mère, on a besoin de faire notre deuil correctement. Et si on n'a pas la réponse, on ne pourra pas le faire correctement. On pourra mentir à tout le monde en disant que ça va aller, mais ça ne va jamais aller. On veut les vidéos, il y a des vidéos, ils veulent nous les cacher, on aimerait les avoir. Exactement. On veut savoir comment il est décédé. S'il vous plaît, donnez-nous les vidéos. Merci à tous ceux qui sont venus, merci pour le soutien. On continue, on ne lâche pas ce combat. Et quoi qu'il arrive, on veut la vérité, la justice pour Yanis et pour toutes les familles. Pour toutes les familles victimes de bavures policières comme cela. On aimerait savoir ce qui s'est passé ce jour-là, ce jour du 14 avril. Et c'est dur pour la famille, c'est dur pour mon petit frère, pour mon neveu. C'était quelqu'un de formidable, mon frère. Il a fait des bêtises, on va pas se mentir, mais c'est vraiment quelqu'un de formidable. Il a toujours été là pour nous. Ça a toujours été quelqu'un d'incroyable. Maintenant, je tiens de lui, tout ce que j'ai appris, être fort mentalement, physiquement, je le tiens de lui. Je tiens aussi de mon grand frère, Nassim. Voilà, tout ça, c'est grâce à vous, vous l'avez tous appris. Et t'inquiète pas, voilà, on va être là. On va être là pour la famille. Et on va tous être là, on va tous se soutenir mutuellement. Que ce soit pour nous, pour les familles, les victimes, tout le monde. Il faut qu'on soit soudés et qu'on lâche pas. C'est ça qu'il faut. Je vous remercie énormément pour votre soutien. Merci à tous. Je vais laisser la parole à mon petit, à ma grande soeur.
Pour Yanis, on veut la vérité. On veut la vérité.
On veut la vérité.
On veut la vérité.
On veut la vérité.
On veut la vérité.
Justice pour Yanis.
Comme vous avez pu l'entendre, mon petit frère nous a quittés, il n'avait que 20 ans. Est-ce qu'il méritait ça? Non. Le soir du 14 avril, il a appelé ma mère au téléphone pour lui dire qu'il rentrait. Il rentrera jamais. Il s'est battu pendant 49 jours pour sa vie, pendant que des officiers de police dormaient tranquillement sur leurs deux oreilles, sachant qu'ils sont impliqués dans l'accident de mon petit frère. Aujourd'hui, on réclame justice pour Yanis. On veut les vidéos, on veut savoir ce qui s'est passé ce fameux soir du 14 avril 2021. Car ce n'est pas seulement sa famille qui est détruite, mais c'est aussi ses amis, toutes les personnes qui le connaissaient et son quartier qui a endeuillé. On veut les vidéos et on lâchera rien. Il y aura une justice et on fera tout pour ça. Justice pour Yanis.
Justice pour Yanis.
Justice pour Yanis. Justice pour Yanis.
C'est toujours les amis d'Orwell sur Radio Libertaire et maintenant on part à Marseille pour évoquer l'affaire de Souheil. Lui aussi avait 19 ans, c'était un habitant du quartier de la Belle de Mai. Le 4 août, donc l'été dernier, il a été abattu dans sa voiture à l'arrêt lors d'un contrôle de police. Depuis ce jour, la famille se bat pour connaître la vérité. Elle a porté plainte le 23 août contre X pour homicide volontaire. Le procureur a lancé une enquête préliminaire. Et ce procureur a 3 mois, d'après les règles, jusqu'au donc 23 novembre, pour ouvrir une instruction judiciaire en bonne et due forme. S'il n'y a pas d'instruction, la famille va se porter partie civile et demander la désignation d'un juge d'instruction. Le week-end dernier, donc du 12 au 14 novembre, toute la famille et les amis de Souheil ont organisé un week-end de commémoration accompagné d'ateliers pratiques sur la question de la légitime défense. On en diffusera une partie tout à l'heure. Pour commencer, on va entendre Issam, le père de Souheil, et Samia, l'une de ses tantes. Issam, nous l'avons rencontré dimanche dernier, dimanche 14 novembre, sur la Canebière. Et Samia était l'invitée d'une émission de Mediapart diffusée en début de semaine.
Bonjour, je suis Issam, papa de Souheil, qui a été tué par la police le 4 août 2021, lors d'un banal contrôle routier.
Et vous faites donc 3 jours de rassemblement, de mouvement, de discussion en plein centre de Marseille. On est le dimanche, ça fait 2 jours que ça dure. Qu'est-ce que tu peux en dire pour l'instant ?
Ben pour l'instant, on trouve que l'opération est bien réussie. On a commencé vendredi avec la sensibilisation sur la légitime défense, sur les comportements adoptés face à des contrôles policiers ou face à des contrôles policiers qui dérapent. On a été contacté du coup par des membres d'assaut qui veulent qu'on refasse ces ateliers pour leurs jeunes. Donc on trouve que c'est déjà un succès. Il y a eu beaucoup d'interactions avec les passants. Il y a eu aussi la partie inauguration d'une fresque qui a été faite à la Belle de Mai, dans laquelle on a pu communiquer, parler aussi de ce qui nous était arrivé. Et puis là, on arrive au dimanche où on attend un maximum de monde possible sous l'ombrière pour parler de ce mouvement vérité, notamment de ce vérité en langue des signes.
Alors justement, raconte-moi comment ça vous est venu justement l'idée de que ce soit une sorte de cri de ralliement avec un symbole, le symbole de la langue des signes qui veut dire vérité, avec les 2 doigts posés sur la paume de la main. Explique-nous un petit peu la démarche.
Bah en fait, vers le mois d'octobre, quand je me suis aperçu que l'IGPN faisait exprès avec le procureur de faire traîner les choses, puisque l'enquête était terminée depuis un mois et qu'elle n'avait pas été transmise au parquet, je me suis dit qu'il fallait qu'on trouve une façon de demander la vérité et que ça dure. Que ce ne soit pas juste une opération marche blanche qui s'éteint le lendemain. Et donc on a pas mal réfléchi et j'ai pensé à cette idée de vérité. Et comme on est toujours on cherche toujours la dignité, le calme, et on a trouvé que la langue des signes c'était le meilleur support. Et le V de vérité qui était simple à réaliser et très, très parlant. Donc on est parti sur cette combinaison de vérité et qu'on demande à tout le monde de propager et de demander. On a déjà reçu plus de 600 personnes qui ont fait la vidéo en exigeant la vérité, en demandant la vérité. Et en fait, on veut que ça continue, que le maximum de gens répondent à cette pétition incarnée et demandent la vérité à toutes les institutions, devant les palais de justice, devant les préfectures de police, devant les mairies, à tous les politiques.
Et pour l'instant, le fait de visibiliser votre lutte, qu'est-ce que tu peux faire ? Peut-être une réflexion d'étape ? Est-ce que vis-à-vis justement des institutions judiciaires, policières, est-ce que tu penses que le rapport de force il commence vraiment à être en votre faveur ou au moins il y a des choses qui ont été posées?
Bah en fait, au moins ils savent qu'on est déterminé, ils savent qu'on est calme, mais calme et déterminé. Je veux dire, c'est important pour nous de cette dignité dans laquelle on est. Et en fait, nous on a été respectueux. L'institution ne m'a pas respecté à divers moments, puisque aujourd'hui, on est le 14 novembre, je n'ai toujours aucune autre version de la police que la version qu'il m'a donnée le soir de la mort de mon fils, comme quoi le policier était passé sous les roues la voiture de mon fils. Je n'ai pas d'autre version. J'ai demandé via une lettre ouverte au président de me répondre, on ne m'a pas répondu. J'ai interpellé l'IGPN, le procureur via mon avocat, personne ne répond. Donc voilà, aujourd'hui, ils savent qu'on est déterminés et qu'il y a du monde avec nous.
Il y a aussi la question de la non-assistance au moment de l'assassinat. Ça aussi, ça a été évoqué dans la presse. Il y a eu des éléments de... Oui.
Donc, je vais pas parler d'assassinat pour l'instant, puisque...
Ce sont mes propos, d'accord.
Je vais parler de tir de la police, de crime, qui devrait être jugé, je pense. Et effectivement, en fait, ce que je dis, moi, c'est que ce jour-là, à cause de la loi de 2017 sur la légitime défense, on a mis entre les mains d'un jeune de 22 ans, en l'occurrence le tireur, les trois pouvoirs. Le pouvoir exécutif, lorsqu'il a tiré. Le pouvoir judiciaire, lorsqu'ils ont déclaré que mon fils avait tenté d'écraser un des leurs. Et le pouvoir législatif, parce qu'ils ont rétabli la peine de mort à ce moment-là, en laissant mon fils se vider de son sang. Et ça, c'est inacceptable.
T'as encore une partie de la journée à rester debout, et puis t'as préparé
à être debout, et aussi à garder ses émotions, parce que c'est pas simple pour un père qui parle de la mort de son fils. Donc je suis entouré, j'ai ma famille, mes amis qui sont avec moi, et on est là, et on restera là.
Et tu comptes évidemment continuer à rendre visible ce combat, mais aussi d'autres combats à Marseille et ailleurs sans doute.
Oui, justement, c'est en fait on dit bien vérité pour Swale, vérité pour tous, parce qu'on a quand même l'impression que c'est une attitude généralisée à chaque fois qu'il y a ces problèmes entre la police et les citoyens. Il y a des problèmes de faire apparaître la vérité qui sont récurrents, et l'institution française avec l'IGPN qui dépend de la police, on est le seul pays d'Europe où c'est comme ça, et qui fait faire que la vérité n'éclate quasiment jamais.
Avant évidemment que ça t'arrive, dans quel état d'esprit tu étais vis-à-vis de ces questions-là? C'était quelque chose qui te touchait, comment tu analyses un petit peu la progression de ton état d'esprit?
En fait, je pense que je suis passé de la naïveté à la connaissance. J'étais naïf parce que je pensais que je croyais dans les institutions, et notamment dans mon cas précis, le 6 août, quand j'ai vu que les témoins avaient spontanément déclaré ce qu'ils avaient vu, je me suis dit c'est bon, l'IGPN va avoir la tâche facile, ils ont des noms, des prénoms, des gens à aller voir, tout va s'éclaircir. Et en fait, ça sert à rien, parce qu'il n'y a pas de recherche de vérité.
Depuis que ça s'est passé, depuis le 4 août, on n'a eu aucune information officielle. Il faut savoir que ni la police, ni le procureur, ni personne ne nous a informé de quoi que ce soit. Les seules choses qui ont fuité, ont fuité dans la presse, et c'est des sources AFP ou bien des prises de parole des syndicats de police qui, dès le début, ont donné une version qui était totalement erronée. Et ce qui est assez difficile pour nous, c'est de réaliser qu'en fait, l'institution policière est capable de ça. Alors, sur le principe de faire une erreur, comme par exemple de déclarer que mon neveu a reculé sur quelqu'un, ce qui est faux, comme le fait de dire que la veille, il avait déjà blessé un policier sur le délit de fuite, c'est faux. Il y a eu un certain nombre d'éléments comme ça qui ont été relatés, et derrière, aucun démenti. Donc on laisse fuiter des informations fausses et on n'en donne aucune à la famille.
Nous sommes le 4 août vers 18h dans le quartier de la Belle de Mai, à Marseille. Il se trouve qu'on dispose d'images, car ce jour-là, une équipe de télévision de TFX, une chaîne de la TNT habituée au reportage en immersion avec les forces de l'ordre, est avec les marins-pompiers de Marseille. Et elle filme justement l'arrivée des secours sur place.
Alors là, on part pour une victime par arme à feu. À droite. Victime par arme à feu, avec apparemment des policiers blessés. Donc on va voir ce que c'est. À l'appel, apparemment, c'était un peu confus de ce qu'il disait. Donc, c'est pas trop à quoi s'attendre.
Ce policier a voulu contrôler le véhicule noir qui ne s'est pas arrêté. Et le conducteur l'a renversé. Un second policier a alors fait feu et a blessé le chauffeur au thorax.
Je trouve scandaleux le fait que ni la police, ni le procureur, ni l'IGPN ne nous a informé de ce reportage. Il est techniquement impossible qu'en fait, il n'ait pas été mis au courant, puisqu'en fait, les pompiers qui étaient présents sur place ont dû forcément faire leur témoignage auprès de l'IGPN, vu que c'est les premiers sur place. Et dans ces pompiers qui sont intervenus, il y avait des journalistes embarqués. On ne savait même pas, on n'avait pas connaissance de cette diffusion. C'est des gens qui l'ont vu à la télé, qui nous ont prévenus. Et c'est comme ça qu'on a découvert le contenu de cette émission. Il faut savoir aussi que l'émission en elle-même était Marseille sous haute tension. Dans la plupart des cas énoncés avant, il s'agissait de règlement de compte avec la police. Donc il y a une espèce d'amalgame qui est fait en mettant mon neveu dedans. Et je veux dire, c'est indigne en fait de l'institution policière de ne pas respecter en fait la famille à ce stade, à ce point. J'ai fait du porte-à-porte durant plusieurs semaines cet été. Et en fait, pourquoi les pompiers ne sont pas intervenus plus tôt? C'est parce qu'en fait, il nous semble que c'est bien les voisins qui ont contacté les pompiers. D'ailleurs, dans le petit bout que vous avez fait passer, le pompier indique qu'il a reçu un appel très flou, pas très clair. Donc c'est assez peu probable qu'un policier fasse ce type de rendu de la situation. Mais ce qui nous a été dit, c'est effectivement qu'ils ont rien fait. Pourquoi les voisins n'ont pas tout de suite contacté la police? C'est parce qu'en fait, mon neveu a reçu la balle probablement à 70 cm de son corps, fenêtre ouverte. Donc, ils ont tous entendu un bruit sourd. Le plus gros bruit qu'ils ont entendu, c'est la voiture qui, en marche arrière, s'est engouffrée. Et ensuite, ils avaient plus peur pour son ami qui était dans tous les sens malmené par la police que pour mon neveu. Mais dans une vidéo qu'on a, on voit très clairement mon neveu tenter de prendre de l'air à l'extérieur, bouger sa jambe, et c'est comme ça en fait que les voisins qui étaient du côté de mon neveu ont vu qu'il était encore en vie, et ils ont poussé un cri vers le policier qui avait tiré en demandant à ce qu'en fait qu'ils appellent les pompiers. La réponse de ce policier a été, et c'est dans les vidéos, mais il a essayé d'écraser mon collègue. On peut juste quand même préciser, ça on le sait, qu'en fait, parce qu'ils ont tout de suite invoqué le fait que mon neveu avait blessé quelqu'un, un policier qui était à l'arrière, en marche arrière. Or, en fait, le policier qui a été touché légèrement au genou, et d'ailleurs dans les vidéos on voit très bien qu'il est debout, et les témoins qui étaient à la fenêtre confirment qu'en fait il était complètement à l'abri, il s'était décalé quand l'autre policier est intervenu. Il a été touché parce qu'en fait, ils ont positionné la voiture en parallèle de celle de Swail. Et en fait, quand Swail a braqué, il l'a effleuré sur le genou. Donc en fait, c'est par l'avant gauche qu'il a été touché. Il est très important de préciser qu'en fait, il a eu l'intention de reculer quand celui à l'arrière, justement, s'était décalé. Et d'ailleurs, ça me semble peu probable que lui ait été à l'arrière, puisque c'est lui qui a tiré, en fait, et il a tiré sur son flanc gauche. Donc, ça me semble compliqué qu'il ait pu faire un saut, se retourner et faire, alors que face à la voiture de Swail, depuis le début du contrôle, s'était positionné le brigadier en chef, donc le brigadier responsable de sa brigade, à savoir avec un adjoint de sécurité qui avait géré le contrôle. Ça, on ne sait pas pourquoi, puisqu'il est dit, et on ne remet pas ça en question, la veille, Swail avait fait un délit de fuite. Donc en fait, le lendemain, il s'arrête à côté de lui, ils savent qu'il a fait un délit de fuite, et ce n'est pas le brigadier en chef qui gère le contrôle, mais un adjoint de sécurité, et il décide, on ne sait pas pour quelle raison, de positionner les voitures en parallèle, ce qui n'est absolument pas la procédure qu'on recommande dans leur manuel de police, que du coup j'ai étudié.
Alors, Samia, au cœur de votre mobilisation, il y a la contestation aussi de la légitime défense qui est invoquée par les policiers.
Je pense que cela pointe quelque chose qui est important et qui, pour moi, concerne toute la société française. C'est qu'avec l'élargissement de la notion de la légitime défense qui a été obtenue sur une période difficile, donc c'était 2017, l'état d'urgence, que les syndicats de police tentaient de faire passer depuis des années, et notamment depuis une affaire emblématique de 2012, celle d'Amin Bentoussi, je pense que le cadre qui leur a été permis à ce moment-là, qui a fait sortir cette notion de légitime défense du droit commun, ce n'est plus le même droit que nous, c'est dans le code intérieur, a créé un cadre, un cadre d'usage de l'arme qui est extrêmement flou, et a permis à ce que la notion de légitime défense et l'usage de la légitime défense soit devenu quelque chose d'assez facile et systématique à mettre en avant par la police. Et c'est un réel problème, parce qu'on ne peut pas faire confiance à une institution qui pose un cadre aussi large et où il y a une vraie subjectivité, parce qu'on ne dit pas qu'il faut mettre au pilori le policier stagiaire qui a tiré. Le policier stagiaire qui a tiré parce qu'il pensait, d'ailleurs c'est ce qui ressort régulièrement des articles maintenant, on parle plus de légitime défense, on dit qu'il pensait que, mais vous vous rendez compte que nos vies sont confiées à des personnes qui pensent que ce n'est pas admissible. Tout ça sur une brigade où il y avait quelqu'un quand même qui était responsable de cette brigade, et comme aujourd'hui ils ont le droit de tirer, non pas pour se protéger eux-mêmes, mais pour protéger quelqu'un qu'ils supposent en danger, il s'est produit ce qui s'est produit avec mon neveu. Et ça, c'est inacceptable. Et ce qui est encore plus inacceptable pour nous, c'est de faire que les victimes que nous sommes, jusqu'à preuve du contraire, et la victime essentielle, c'est mon neveu, qui aujourd'hui n'existe plus par ce tir, on soit complètement déconsidéré par le système, qu'il n'y ait pas un appel du procureur à mon frère ou bien à la mère, qu'il n'y ait pas un appel de la police pour dire où ils en sont, que mon frère doit aller régulièrement relancer l'IGPN qui joue de l'information avec lui, ça c'est anormal et c'est ça qu'on ne tolère pas. Et effectivement, on a décidé de ce signe de vérité. Parce que, en fait, face à une institution sourde, c'est comme ça qu'on mènera le combat. On a fait ce week-end les journées de la vérité en tentant de sensibiliser l'opinion publique à cette question de la légitime défense et à l'élargissement avec l'article L435-1 du Code intérieur. Et honnêtement, dans la rue, les gens ont joué le jeu des ateliers. Il n'y avait pas une personne qui arrivait à comprendre cette notion qui a mis aux mains de la police une possibilité de tuer juste quand il présume que, vous vous rendez compte, que quelqu'un puisse tuer quelqu'un parce qu'il présume que peut-être on n'est plus en train de juger de la situation sur le moment où ça passe. Un policier aujourd'hui, grâce à cette loi, a le droit, s'il estime que peut-être éventuellement quand mon neveu va partir, qu'il va éventuellement derrière décider de revenir en avant et donc de tuer un policier, on le tue. Mais c'est anormal. Et en plus, le bon sens veut que cette théorie de la légitime défense ne peut pas être appliquée. Puisque mon neveu était à côté de la voiture, il y a eu un contrôle qui a duré de longues minutes. Le policier était au milieu, il y en avait un autre sur le trottoir. Ça a duré longtemps, il n'a rien fait. Et c'est quand celui à l'arrière s'est rétracté, qu'il a décidé de reculer. Donc l'intentionnalité, j'aimerais bien qu'on me la montre.
Voilà donc pour ces deux entretiens avec Issam et Samia, le père et la tante de Souheil, ce jeune de 19 ans abattu par la police de Marseille cet été. La commémoration était aussi l'occasion d'organiser pendant 3 jours une série d'ateliers sur la légitime défense, un terme très connu mais très peu explicite pour la plupart des gens. Surtout que, comme on l'a vu, depuis 2017, ce régime spécial a évolué pour organiser encore plus l'impunité policière lorsqu'une personne meurt entre leurs mains. Le comité Vérité pour Souheil a travaillé à cette occasion avec le collectif Désarmons-les pour réaliser cet atelier. Alors on ne va pas le diffuser en entier, sans les images c'est difficile de bien suivre. Surtout qu'il était destiné à donner la parole au public pour interagir avec les intervenants. On va passer la fin de l'atelier. Quand on parle de légitime défense, il faut avoir en tête différentes notions, comme la réalité de la menace, la notion d'immédiateté de la riposte, et aussi les notions de nécessité et de proportionnalité de cette même riposte, qui pourrait donc justifier cette légitime défense. On en vient justement sur la situation qui s'est terminée par la mort de Souheil cet été, sa voiture à l'arrêt qui subit un contrôle de police.
Donc autre chose, là, on va du coup introduire une nouvelle situation qui est plus complexe. On va la mimer ici. On a une voiture ici qui est à l'arrêt, je précise. Elle est à l'arrêt. Une voiture de police arrive. Elle se place à côté de la première voiture. On a la voiture qui est garée ici. La voiture de police vient se mettre juste à côté d'elle pour effectuer un contrôle. Dans la voiture de police, il y a 3 policiers. Dans la voiture, il y a le conducteur et un passager. Un premier policier, qui est l'officier, le brigadier-chef, il sort du véhicule et il vient se mettre sur le trottoir derrière le véhicule. On ne va pas tellement le prendre en considération, mais il ne faut pas oublier qu'il est là, parce qu'il est officier. Un deuxième policier, qui n'a pas son arme à la main, vient se positionner entre les 2 voitures pour aller s'adresser au conducteur du véhicule. Un troisième policier, vient lui, dans un premier temps, relever la plaque du, véhicule, donc se place derrière le véhicule. Il n'est pas armé à ce moment-là. Puis dans un second temps, il va là où vous êtes, il traverse la chaussée, il va sur le trottoir d'en face, et puis il revient, il se met à peu près derrière le véhicule, qui, je le précise, est un véhicule relativement haut, avec une visibilité relativement limitée de ce qu'il y a derrière, c'est une fourgonnette. Et à un moment donné, le véhicule va reculer d'un mètre, avec une légère rotation, un mètre ou deux mètres, il recule, et là, tout d'un coup, la personne qui se trouvait, le policier qui se trouvait sur la chaussée, s'approche et tire sur le conducteur. Première question, est-ce que pour vous, il y a légitime défense ?
Non.
Pourquoi ? On n'est pas encore là. Est-ce que pour vous, il y a légitime défense dans le simple fait de tirer sur le conducteur ? On va reprendre les critères. La menace, pour le tireur, on parle du tireur, la menace est-elle réelle ? La riposte, donc le fait de tirer, est-elle nécessaire ? Est-elle proportionnelle ? Il y avait d'autres moyens. La voiture n'est pas forcément une arme. La proportionnalité, elle va être évaluée à un moment donné où on considère que la véhicule est une arme. Là, elle n'est pas une arme. Je rajoute un critère. Le policier qui est entre les deux voitures, qui est là, est légèrement heurté au niveau du genou quand la voiture recule d'un mètre et il pousse un cri. Le policier refait la même scène. Il s'approche et il tire sur le conducteur. Est-ce que lui... où lui était au moment du tir en état de légitime défense ?
Non, non.
Toujours pas ? Parce que la menace, ni pour lui, n'est réelle. La riposte n'est pas nécessaire et n'est pas proportionnelle. Et surtout, elle n'est pas immédiate. Et du coup, c'est là qu'il faut s'interroger sur les critères qui sont utilisés. La voiture, elle recule d'un mètre. Du coup, le policier là, après avoir tiré sur le conducteur, a estimé qu'il était en état de légitime défense. Pourquoi ? Parce qu'il a cru son collègue menacé. Il a perçu le cri de son collègue comme une raison suffisante pour tirer sur le conducteur. Est-ce que selon vous, c'est suffisant pour établir la légitime défense ? Le troisième policier est là. On va un peu décrire la scène. Il est l'officier, comme j'ai dit tout à l'heure. Quand il y a une unité de police qui se déplace sur les lieux, sur une intervention, c'est lui le responsable. Peut-être c'est lui qui devrait gérer la scène, la situation. C'est lui qui devrait gérer le contrôle. Il laisse faire ses deux collègues. Et surprise, l'un est adjoint de sécurité, mais le tireur est stagiaire dans notre situation. Donc là, on pourrait dire... il y a une question de responsabilité hiérarchique. On peut questionner la responsabilité de l'officier. Qu'est-ce qu'aurait pu faire l'officier ? Il aurait pu non seulement gérer la situation, il aurait pu, lui, agir de manière à réduire la menace s'il y en a une. Maintenant, j'aimerais interroger sur un truc. Il y a le code pénal, il y a le code de sécurité intérieure. Mais qu'est-ce qui rentre en compte à ce moment-là, selon vous aussi ? Et qui va déterminer l'action des policiers.
Discernement.
Alors, on parle de discernement. Effectivement, il ne faut pas oublier que c'est des policiers. Donc, ils obéissent à un certain nombre de normes et de codes, dont le code de déontologie de la police, et les protocoles. Ils ont des protocoles d'intervention qui sont dans les manuels de formation, qui font l'objet de circulaires quand il s'agit de les préciser. Le protocole, il dit quoi, dans un premier temps ? Quand ma voiture, elle est garée là, avec deux personnes dedans qui sont pas armées, il n'est pas question de ça. Le véhicule s'arrête. Le protocole dit que le véhicule de police doit s'arrêter en retrait par rapport au véhicule concerné par le contrôle. Pourquoi ? Parce qu'en fait, non seulement il doit laisser un échappatoire à la voiture. Et aussi parce qu'il y a des protocoles très stricts sur la manière dont les policiers sortent de leur véhicule pour aller contrôler un autre véhicule. Ils sont trois, il y a des protocoles. On a fait une brochure, on pourra la distribuer après. Quand il s'agit de contrôler un véhicule, ils sortent d'une certaine manière. Ils se placent d'une certaine manière. Pourquoi ? Pour pas se mettre en danger. Donc ils vont utiliser les angles morts du véhicule contrôlé. Et ils vont utiliser des techniques d'approche. Ils peuvent brandir leur arme. S'ils estiment qu'il y a danger, ils ont légalement le droit de brandir leur arme. Mais il y a des protocoles très stricts d'intervention. Et il y a un autre truc qui s'appelle le code de déontologie de la police. Et là, on est sur l'aspect moral, sur les questions un peu plus philosophiques, on veut dire, et qui disent aux policiers, quand on t'envoie sur le terrain, quand on te met une arme à la main, tu as des obligations. Il y a l'obligation de discernement qui est reliée à celle de sang-froid. Il faut garder son sang-froid. Tu ne peux pas, à chaque fois que tu as peur, tu ne peux pas, à chaque fois que tu penses qu'il y a une menace éventuelle, brandir ton arme et tirer sur quelqu'un. Ce n'est pas possible. En fait, on te donne des prérogatives, on te confie une arme qui tue, donc tu dois absolument faire preuve de discernement. Et ça...
Eh ben, au 01 43 71 89 40 sur Radio Libertaire. Radio Libertaire, ça n'a pas changé. Urbi comme Orbi, c'est la radio de la Fédération anarchiste, sans Dieu ni maître. Mais vous avez une très bonne librairie, ben, 145 rue Amelot, pour trouver les publications et puis les livres qui tournent autour de l'esprit libertaire. On est bien sûr Onde de choc, le dernier comptoir où l'on cause, l'émission qui peut faire et défaire les carrières à loisir. Daniel Ziv, pour la... oui, bonjour.
Bonjour.
Voilà, carrière va partir fulgurante, là, ça va être extraordinaire. Hein.
Ça y est, elle est cassée.
Ça y est, oh, c'est fini, là.
C'est bon, c'est voilà, sur orbite.
Éric Tessier, qui est habitué, oui. Alors quel état il est maintenant.
Oh là là.
Hein. Voilà. Et bonjour Jacqueline aussi, c'est quand même un plaisir.
Bonjour Géant.
Alors j'ai eu un petit problème avec Monique, quand elle a su que tu venais aujourd'hui. Tu sais que Monique est une femme très pieuse. Hein, très pieuse. Dont l'œcuménisme n'est absolument pas... remettre en cause la Torah.
Je t'ai entendu le dire déjà, oui.
La Torah, la Bible, tout
pauvre
ça.
Monique, pauvre Monique.
Le Coran, il n'y a aucun problème. Alors, elle m'a dit la semaine dernière, écoute bien ce qu'elle a osé me dire, qu'elle ne venait pas aujourd'hui pour moi, mais pour toi.
C'est vrai.
Oh, ouais. C'est gentil.
Oh, voilà. C'est gentil, Monique.
Alors, tu sais, tu connais la formule, hein, la jalousie est à tout le monde, c'est les femmes ne sont à personne.
Oh, c'est beau, ça.
Non, c'est pas de moi.
Enfin, c'est... Hein. Oui.
C'est les enfants du paradis, Jacques Prévert. Hein.
Ah,
c'est
oui.
Magnifique, hein, là... Voilà. Bon, on a plein de choses à se dire, je pense.
Ouais.
On a eu un petit contretemps il y a quelques semaines. On devait recevoir Françoise Vergès pour faire une émission consacrée à Aimé Césaire. Elle n'est pas venue, c'est remis au 9 décembre. Oh, corrigez-moi, oh là là. Ça va être le 9 décembre, voilà. Ça vous inspire Aimé Césaire, vite fait ? Personne ?
Oui, un peu.
Bien entendu.
Ouais, magnifique, je ne sais pas si vous l'avez relu. Oui. Non, personne, texte politique.
Moi, j'ai pas lu spécialement.
Texte politique sur le colonialisme est complètement d'actualité. Mmh. Il a été très, très, très loin dans la démarche. C'est en 1950, et il se permet de. Alors, il est déjà député, il se permet de comparer le bourgeois européen à Hitler, quoi.
Ah oui. Mmh.
C'est-à-dire, ça ne peut, il y avait une arête au niveau de la société, au creux du gosier.
Ouais, ouais, ouais.
Voilà. Donc, on reçoit Daniel Ziv, on reçoit Éric Tessier. Vous avez un point commun que j'ai découvert il y a deux minutes. Avec
lequel?
Un troisième personnage, c'est Jacques Lacan. Ah. Tout le monde a traité d'Antigone. Hein, dans Pauline Ultime, tu parles d'Antigone.
Oui, tout à fait.
Jacques Lacan parle d'Antigone. Et Antigone, bien sûr.
Et Jacques Lacan, dont je suivais quelques cours du temps de la fac de Vincennes, j'ai créé un roman policier. Et en fait, il y a une phrase avant le roman policier de Lacan. Si on comprend la phrase, on a compris tout le roman policier.
D'accord.
Ah.
Et c'est pour ça qu'il y a une petite dédicace dans votre livre, là, ou non? Ou c'est quelque chose qui vous poursuit, Jacques Lacan?
Lacan ne me poursuit pas, mais c'est quelqu'un d'absolument extraordinaire. C'est en plus un personnage qui avait un humour absolument considérable. Et qui était brillant, parfois difficile à suivre, difficile à comprendre, bien sûr, mais remarquable. Mais il ne cherchait pas à être compris. Même lorsqu'il donnait ses cours.
Bah, le paradoxe, c'est que pour un psychanalyste qui doit théoriquement éclairer l'âme humaine, il dit très très clairement qu'il veut s'inspirer de Mallarmé. Alors, je crois qu'il y a quelque chose qui ne va pas dès le départ. Alors, la maison d'édition date depuis quand, Daniel?
Alors, Z4 Édition a été créée il y a 3 ans maintenant. 3 ans, 4 ans. C'est une maison d'édition, en fait, je voulais avant tout publier les auteurs qui étaient dans des pays censurés, là où ils ne pouvaient pas s'exprimer, en me disant, maintenant avec Internet, ils peuvent publier dans toutes les langues qu'ils veulent, dans ma maison d'édition. Ça n'a pas véritablement fonctionné, parce que c'est toujours dangereux, même quand on est dans un de ces pays et qu'on publie dans un autre pays, c'est quand même très dangereux. Donc on s'est plus tourné, en fait, ensuite vers la mémoire d'une manière générale, évidemment, d'autres livres sont arrivés et voilà, comme ils étaient merveilleux, ben on était obligé de les publier.
Ce n'est pas que je tienne tellement au livre d'Éric Tessier à Lucitia qui vient de paraître.
Moi, je suis très déçu. Tu n'as pas dit que j'étais le plus mauvais écrivain.
Mais ça va venir. Ça va être progressif.
Ah, d'accord, pardon.
J'annonce ça.
Je vous laisse le climax.
Des gens, j'ai été quand même, comme j'ai bon cœur, j'ai quand même conseillé ce livre à des gens. Où peut-on le trouver?
Alors, pour le trouver, le plus simple, c'est évidemment d'aller sur le site de Z4 Édition. Sinon, je dirais presque malheureusement, évidemment, Amazon. Mais on n'aime pas vraiment vendre sur Amazon. Mmh. Et sinon, bien entendu, tous les libraires peuvent se le procurer. On a beaucoup de libraires qui nous demandent des livres. Et à partir de là, on peut le commander chez son libraire.
D'accord, il faut le commander chez le libraire. Il n'y a pas de diffuseur, c'est ça que je voulais dire.
Non, il n'y a pas de diffuseur.
C'est ça.
Hein? Non, pour limiter les coûts, en fait, on essaye de... Z4 Édition est une association, c'est-à-dire on n'est absolument pas à but lucratif. Donc on essaye de publier les livres au meilleur prix possible, avec le minimum de frais. Cela étant dit, évidemment, lorsque c'est un libraire, il y a la commission du libraire qui est classique, les frais de port offerts, etc., etc. On est heureux de vendre au libraire, ça c'est clair.
Donc, Éric Tessier...
Il y a Publico aussi.
Il est disponible à Publico.
On va toucher Publico. Il y a depuis quand? Attention, ne m'augmentez pas, Éric Tessier. Hein. Oh. Nous avons quelques rapports depuis très longtemps. Je ne veux pas à l'issue de cette émission. Il y a 15 jours, c'est bien.
À peu près, il y a 15 jours.
Parce que j'ai envoyé quelqu'un il y a plus longtemps, il n'a pas trouvé.
Ah. Oui, c'est vrai.
Donc, si j'ai bien compris, je croyais que vous aviez atteint le pire avec l'extase du prédateur. Publié en quelle année?
Oh là, le Prédateur, 2005.
2005, c'était aux éditions de...
C'était la Nef des Fous.
C'était la Nef des Fous.
Ouais.
Et après, je me suis aperçu que je m'étais trompé avec Pauline Ultime, parce qu'il y avait déjà un stade au niveau du pire qui avait été passé.
Oui, c'est vrai.
Hein, voilà. Et puis
ça
là,
a été plus loin, oui.
Et là, il y a un grand écart. Je ne dis pas que ça s'est amélioré, pas du tout, mais il y a un grand écart. On n'est plus dans la même matière, hein.
Non, c'est vrai.
On n'est plus dans la même matière. Avant qu'on va, pour commencer l'émission, j'ai choisi une petite chanson pour Daniel. Franchement, si vous ne l'identifiez pas, vous sortez du studio de Radio Liberté tous.
Bon, ben, à bientôt.
D'accord. Au revoir, Daniel.
J'étais très heureux de vous rencontrer.
Je ne sais pas si on va revenir, on va écouter ça. Je veux dire qu'on a eu une conversation téléphonique il y a quelques années, mais comme vous n'avez pas de mémoire, ce n'est pas grave, mon cher Éric Tessier. Oui. Je vous dis que l'Extase du Prédateur est un livre de débauché. Je vous avais dit à l'époque, un livre de débauché. Et je vous ai dit que généralement, les débauchés, très souvent, en vieillissant, s'intéressent aux tailleurs rosiers, s'intéressent à leur jardin et à la nature.
C'est vrai, tu m'en avais parlé.
Je vous avais dit ça,
je m'en souviens.
Voilà. Et je vous avais ajouté en mezza voce, j'ai dit qu'il faut toujours faire attention à leurs coups de cisaille, car ils sont alors très pervers.
Oui.
Et c'est ce que je me suis dit, ce qui a sous-tendu un peu la lecture d'Amicizia.
Ah tiens.
Voilà, on écoute, merci Monique.
On y enferme de temps en temps, et tout ça s'accouche avec des truands, des capitaines aux yeux si bleus, qu'on voit la France pleurer dedans, des Jeannettes au ventre si blanc, qu'on voit la France bouger dedans, et des Rouges au cœur si grand, qu'on voit la France s'aimer dedans. Paris-Cayenne, tu as la dent dure à ceux-là qui sont dedans. Paris-la-Seine, il y a trop longtemps que tu coules entre deux agents. Paris-Cayenne avec tes gants, ça fait plus chic, c'est moins voyant. Depuis qu'en France, pour la reine, prend des allures d'océan. On dit qu'à Fresnes, le chien d'an voisine avec la fleur des champs. On y promène de temps en temps, dans 4 mètres de murs blancs, des quarantaines de printemps, qui sont en berne des firmaments, aux mains de laine sortent d'enfants. Chaque semaine, ça fait 100 ans, la belle que l'on t'attend, un barreau de frêne entre les dents. Paris-Cayenne, tu as la dent dure à ceux-là qui sont dedans. Paris-la-Seine, il y a trop longtemps que tu coules entre deux agents. Paris-Cayenne avec tes gants, ça fait plus chic, c'est moins voyant. Depuis qu'en France, pour la reine, prend des allures d'océan. On dit qu'à Fresnes, le chien d'an voisine avec la fleur des champs. On y malmène de temps en temps, dans des arènes de ciment, des fortes têtes aux cheveux blancs, qui ont eu le rêve trop entreprenant, des athées qui savent à 20 ans, qui sèment la poudre, récoltent le sang, qu'on ramène à Fresnes sans ménagement, voir si d'un Jésus on fait un forban. Paris-Cayenne, tu as la dent dure à ceux-là qui sont dedans. Paris-la-Seine, il y a trop longtemps que tu coules entre deux agents. Paris-Cayenne avec des gants, ça fait plus chic, c'est moins voyant. Depuis qu'en France, pour la reine, prend des allures d'océan. On dit qu'à Fresnes, le chien d'an voisine avec la fleur des champs.
Daniel Ziv, là, vous restez ou pas?
Malheureusement, je reste, parce que Maurice, en plus, était un camarade. Il allait sur scène, il chantait, de temps en temps, il s'arrêtait de chanter pour venir me piquer une gauloise. Il retournait chanter avec ma gauloise. Mais bon, et ce qui est très drôle aussi, c'est que là, j'essaye de publier 12 nouvelles totalement inédites de Maurice. On n'arrive pas à les retrouver, je suis en discussion avec sa femme. On les cherche partout, et dès qu'on les trouve, si on les trouve, j'aurais vraiment le grand, grand plaisir de les publier. Maurice était un type extraordinaire, je pourrais parler pendant des heures de Maurice.
Moi, je l'ai vu une fois sur scène, il était ivre-mort.
Toujours.
Il était ivre-mort.
Oui, oui.
Mais petite parenthèse, reparenthèse, parce que j'en ai parlé là, il n'y a pas longtemps, c'était style Mouloudji. Mouloudji, la dernière fois aussi, je l'ai vu, il était ivre-mort.
Ah ouais?
Voilà.
Ah ouais.
donc, ils arrivent à avoir une continuité comme ça. Mais toi qui n'es pas très porté sur la musique, sur ce genre de chansons, il faut bien le dire.
Oui, voilà. Voilà. Encore que ça s'est largement ouvert.
J'ai remarqué, tu as progressé.
Ces dernières années.
Tu as progressé. Mais ça tient le choc.
Évidemment.
Ça tient le choc.
Ah ben évidemment,
oui.
Évidemment.
Voilà. Mais ce genre de chansons et ce genre de chanteurs, c'est là qu'on fait le tri. Parce que lorsqu'ils apparaissent, bon, ils sont là, et cela, c'est les en passant, on voit qui résiste.
Oui.
Quel type de voix résiste, quel type de texte résiste.
Il y avait un copain de Maurice qui chante toujours. Et qui malheureusement n'est pas assez connu. C'est un type tout aussi extraordinaire.